Radio Kapi.
Le journal, grâce à Mzati à la présentation.
À la une de l'actualité ce soir, arrivée cet après-midi à Kisangani du chef de l'État, la population de la Tchopo dit attendre beaucoup de cette première visite de Félix Tshisekedi depuis sa réélection à la tête du pays. Dans ce journal, nous parlons du présumé détournement des fonds destinés à la construction des centres de formation professionnelle dans certaines provinces de la RDC. Téné, deux anciens ministres soupçonnés sont interdits de quitter le pays. Fenelon Kiangaluka, gérant de la société des techniques spéciales, est l'invité de la rédaction. Cette société spécialisée dans la fourniture de l'électricité accepte d'accompagner la province du Maniema dans la réhabilitation de ses centres hydroélectriques. D'abord, cette information en plus bref. Ouverture ce mercredi du procès de l'opposant politique Seth Kikuni devant le tribunal de paix de Kinshasa Gombe, en foraine à la prison centrale de Makala. Avec un état de santé critique lié à la rechute de son opération, le président des pistes pour l'émergence a comparu devant son juge naturel. Ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire pour lui permettre de se faire soigner. Cependant, le ministère public s'est opposé, soutenant que l'opposant constitue un danger pour la nation. Il pourrait tenir les mêmes propos tenus à Lubumbashi, même ici à Kinshasa. Des propos que le ministère public qualifie de faux bruits et d'incitation à la désobéissance civile. Le tribunal promet d'en délibérer dans 24 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est arrivé à Kisangani ce mercredi. Son avion a atterri à l'aéroport de Bangoka à 16h50, heure locale. Son arrivée était annoncée dans un premier temps vers 10h, puis 13h. C'est finalement autour des 18h30, heure de Kisangani, que Félix Tshisekedi a débarqué à la place de la poste où une foule l'attendait. Tout de suite après, le chef de l'État a pris la parole pour s'adresser à la population sur différents problèmes du pays, notamment la guerre dans la partie Est. Il réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. Il a également abordé la question du social des Congolais. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Entre-temps, au Nord Kivu, la localité de Kalembe située à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale passe à nouveau sous occupation des rebelles du M23 RDF. C'est à l'issue des violents combats qui les ont opposés depuis tôt ce mercredi à l'armée congolaise et aux combattants VDP Wazalendo. Plusieurs habitants ont fui la zone où la situation reste volatile, notamment en raison de la présence des Wazalendo dans les environs. À Goma, Bernard Denyangi.
L'intensité des combats qui ont éclaté vers 5h locales ce mercredi baisse depuis le début d'après-midi, indiquent nos sources dans la zone. Elles précisent que les rebelles M23 ont lancé simultanément les attaques contre l'armée congolaise et le VDP Wazalendo à Katahandwa, près de Kalembe, à Kalongé et où la territoire de Walikale, ainsi qu'à Kaira, en territoire de Masisi. Ces derniers ont fini par occuper Kalembe et ses environs dans la matinée. Les éléments de groupe VDP Wazalendo, repoussés de Kalongé et Kalembe, se seraient retirés à environ 1 kilomètre de ces entités du territoire de Walikale, où, selon certaines sources sécuritaires locales, ces derniers tentent de réorganiser leurs forces pour contre-attaquer, ce qui laisse présager une escalade des violences dans cette région. Rappelons que c'est depuis dimanche dernier que des combats opposent les rebelles M23 au VDP Wazalendo autour de Kalembe. C'est avant que l'armée congolaise n'y déploie par hélicoptère lundi un renfort militaire, selon les confirmations des sources de FARDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, les habitants de Masisi traversent une situation préoccupante du point de vue des droits humains. Des travaux forcés, des arrestations arbitraires et plusieurs abus sont rapportés par différentes sources. L'absence de l'autorité de l'État dans les zones occupées par les rebelles, mais aussi celles qui sont contrôlées par les groupes armés Wazalendo, favorise des exactions. Les hommes en armes se comportent en maître absolu dans cette zone. Les habitants de Masisi dénoncent une forte circulation d'armes dans leur contrée et demandent au gouvernement de récupérer le contrôle de ces territoires. Sifa Maguru nous raconte.
D'après nos sources, les habitants de Masisi vivent la peur au ventre, ils circulent difficilement et n'exercent pas librement leurs activités socio-économiques. C'est à cause de l'activisme des hommes en armes. Ces habitants demandent au gouvernement de chasser les rebelles du M23 et d'encadrer les Wazalendo afin d'imposer la paix dans les Masisi. L'autorité de l'État ne se fait pas sentir actuellement. Seuls les hommes en armes ont le pouvoir, explique un habitant joint au téléphone. Même les autorités coutumières et locales n'ont rien à dire devant ces hommes en armes. Nos sources indiquent que les habitants continuent à être soumis à des travaux communautaires forcés dans les zones occupées par les rebelles du M23. Cependant, dans les zones contrôlées par les groupes armés Wazalendo, nos sources rapportent plus d'arrestations arbitraires et d'exactions. Faute d'une autorité légalement établie, les Wazalendo arrêtent pour toute infraction. À Nyabiondo, par exemple, ces groupes armés auraient constitué une sorte de tribunal coutumier et une police parallèle, ajoutent nos sources. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Comme dit dans les titres, deux anciens ministres et directeurs généraux d'entreprises interdits les sorties du territoire national. Selon une correspondance de l'inspecteur général des finances et chef des services adressée à la Direction générale des migrations, les ministres honoraires de la formation professionnelle et des l'ESU et affaires foncières, respectivement Antoinette Kipoulou et Daniel Madimba, le directeur général de la société Chama et Compagnie Services et Sarel, sont accusés des détournements présumés des fonds destinés à la construction des centres de formation professionnelle dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Sankuru et Lomami. Il nous revient des sources de la DGM que celle-ci venait déjà d'exécuter cette demande de l'IGF en confisquant leur passeport. Jeff Ngoy
est aussi concerné par ces accusations et interdictions de sortie le directeur général Michel Kabeya du groupe Agimers SRL. L'IGF affirme qu'il est en train d'enquêter sur la disparition de l'argent débloqué par le gouvernement Samalou Konde 1 et 2. C'est ainsi que dans ses correspondances du 16 octobre, il dit vouloir s'appuyer sur les services de sécurité des frontières à travers la DGM. J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête est en cours. Aucune réalisation sur terrain n'arrive à justifier le niveau d'exécution financière de ces différents projets. Il y a par conséquent de fortes présomptions de détournement de deniers publics, peut-on lire dans cette correspondance. Jules Alinguete demande que toutes ces personnes citées soient placées en interdiction pour rester disponibles à toute interpellation de la part des services compétents. Il accuse l'ex-ministre de la formation professionnelle d'avoir détourné à des fins personnelles 5 millions de dollars, dont plus d'un million perçus auprès du comptable public de son cabinet sur base d'une décharge sans aucun motif valable.
Jeff Ngoy sur la radio de la paix. Dans l'actualité, sachez aussi que l'opération des mises à la retraite des agents de la fonction publique se poursuit en RDC. Après la première et la deuxième vague du dit processus, le ministère national de la fonction publique vient d'annoncer les débuts des travaux d'actualisation des listes des agents éligibles à la retraite certifiés en 2023 pour le compte de la troisième vague. Des détails avec Ronéline Tibonera.
Dans un document daté du 21 octobre 2024 et consulté par Radio Okapi, les directeurs de cabinet du ministre national de la fonction publique indiquent que cette opération ira du 24 octobre au 19 novembre 2024. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique justifient cette opération par le besoin d'aérer les cadres organiques des services, de créer les vacances de postes et de générer l'explosion des opportunités des carrières, notamment en termes d'avancement en grade. Fin des citations. À cet effet, Jean-Pierre Liaou demande aux secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de la fonction publique ainsi que les responsables des ressources humaines et de présidents du domaine syndical sectoriel de participer à ces travaux qui se dérouleront à son cabinet de travail. Pendant ce temps, tout agent voulant vérifier sa situation administrative est prié de visiter les sites internet www.fonctionpublique.gouv.cd en portail géré par les ministères de la fonction publique.
Parlons de ces drames en Ituri. 14 morts et une cinquantaine de blessés graves, dont la majorité sont des militaires de l'armée ougandaise. C'est le bilan d'un accident de route survenu mardi sur le tronçon Makekebela dans le territoire de Mambasa. Des sources de la police rapportent que ces militaires étaient à bord d'un camion qui s'est renversé après avoir percuté un conducteur de moto et deux de ses clientes qui sont également mortes sur place. C'est ce que nous dit Jean-Claude Lokidile.
Selon nos sources, ce camion militaire transportait des soldats de l'armée ougandaise lorsque soudain, son conducteur s'est retrouvé face à un conducteur de taxi-moto. Incapable de freiner, les deux passagères sont mortellement percutés. Leur conducteur s'en sort avec des blessures graves. L'engin qui transportait des militaires s'est renversé et est complètement endommagé. Du côté de l'armée ougandaise, 12 soldats ont perdu la vie sur place et une cinquantaine d'autres sont blessés. Leurs corps sont retournés à Beni avant de les rapatrier en Ouganda, indique une autorité de la police. L'excès de vitesse et le système de freinage défectueux seraient à l'origine de ce drame. Certaines sources indiquent que ces militaires ne maîtrisaient pas bien le code routier congolais. Cet accident serait survenu pendant qu'ils roulaient roulaient sur la voie de la gauche, comme en Ouganda. Et pour rappel, ces soldats de l'armée ougandaise opèrent sur le sol congolais dans le cadre de l'opération Shujaa, menée depuis novembre 2021 par les armées congolaises et ougandaises contre les ADF dans l'est de la RDC. Bunyan, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Toujours à Ituri, voici plus d'un mois que la police nationale congolaise traque tous les véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation à Bunia, une initiative louée par des acteurs sociaux de la ville. Cependant, de nombreux propriétaires des véhicules se disent victimes de ce qu'ils qualifient de mafia, occasionnée à la douane de Mahagi et Karombo, porte d'entrée officielle de la RDC dans la province de l'Ituri. Une situation que l'ONG de défense des droits humains et justice plus dénonce. Radio Kapi Bunia, Sadiq Aboubakar.
Ils sont nombreux, des propriétaires de véhicules sans plaque d'immatriculation, non pas par manque de volonté, mais parce que victimes d'arnaques au niveau de la douane. Certains parlent même d'opérations mafieuses, comme l'explique Bienvenue au Ketch, le secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus.
Il y a plusieurs véhicules qui ont été réellement déclarés au niveau de la douane, mais lorsque les propriétaires se sont rendus au niveau de la DGI pour obtenir la plaque, ils se sont retrouvés que leur véhicule n'existait pas dans le système. Le propriétaire a payé l'argent à la douane, mais les douaniers déclarent par exemple que c'est la farine qui est entrée, alors que c'est le véhicule. Beaucoup d'assujettis ont été obligés de payer beaucoup d'argent allant de 500 à 600 dollars pour régulariser au niveau de la DGDA, parce qu'ils ont été roulés.
Justice Plus en appelle à la justice pour toutes les victimes de cette fraude. C'est ainsi qu'il recommande au gouverneur de province
de mettre en place une commission mixte qui sera composée du gouvernement provincial, du parquet général et de la DGDA pour écouter les assujettis victimes de ces actes mafieux afin d'identifier et poursuivre les auteurs.
Lors de sa prise de fonction le jeudi 17 octobre 2024, le tout premier directeur provincial de la DGDA Ituri, Félix Kitengi, avait dit, je cite, « Nous devons changer le vocabulaire de la fraude en celui des recettes. » Fin de citation. Bunia. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Merci à vous, Sadiki Aboubakar. Parlons de la rencontre ce mardi entre le maire de la ville de Butembo, au Nord Kivu, et les principaux acteurs du secteur éducatif et de la société civile locale sur la grève des enseignants. À l'issue d'un vote à main levée, les participants ont opté à l'unanimité pour la reprise des cours en attendant la réaction du gouvernement aux revendications des enseignants. Grévis Saloum pour plus de détails.
Cette rencontre organisée par le maire de Butembo a connu la participation des représentants des syndicats d'enseignants, des parents d'élèves, des autorités scolaires ainsi que des diverses autres composantes de la société civile. Après plusieurs échanges, la majorité a exprimé le souhait de reprendre les cours afin de sauver l'année scolaire en cours. Le révérend Mate Sanane, président de la société civile de Butembo, explique.
Unanimement, vraiment tout le monde a été d'avis que les cours reprennent en attendant le résultat des démarches qui sont en cours à Kinshasa. Cette confirmation a été exprimée par le vote à main levée. Et donc, nous accompagnons les enseignants dans ce sens.
Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Salomo Chalumo, a pour sa part exhorté les enseignants à retourner dans les classes en attendant la réponse du gouvernement.
Il y a nos élèves qui viennent de faire autant de jours sans étudier, surtout ceux du primaire public. Nous exhortons l'enseignant du primaire de rejoindre la classe en attendant à ce que le gouvernement réponde à ses revendications.
Le syndicat des enseignants du Congo Sieko à Butembo a promis de faire part des résultats de cette rencontre à ses membres avant de se prononcer officiellement. Beni Grévis Saloumou, Radio Okapi.
Par ailleurs, la province du Haut-Katanga est désormais partenaire de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi à travers son programme de bourse dénommé Wantanchi Excellencia. L'annonce a été faite ce mardi à Lubumbashi au cours d'une conférence de presse animée par le coordonnateur de cette fondation et le ministre provincial de l'éducation. Pour cette première année, plus de 500 élèves qui ont eu leur diplôme d'État édition 2023-2024 avec au moins 75% vont passer ce dimanche le test de sélection avant d'être éligibles à cette bourse de la province gérée par la fondation. D'autres détails avec Joël Makubikwa, le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, au micro de Jean Ganduka Bongo.
Ceux qui vont faire un minimum de 70% au test de sélection sont ceux-là qui seront boursiers de la province. Ces tests de sélection portent sur quatre matières. Il y a mathématiques qui est du niveau 6e littéraire, qui est le programme commun à toutes les options. Ensuite, il y a l'examen de français, il y a l'examen d'anglais et l'examen de culture générale. Culture générale, vraiment, histoire, géographie, civisme, mais aussi des questions d'actualité. On a des candidats qui vont venir de Pueto, de Musoshi, de partout, dans toute la province. Et les options qui sont proposées sont des options que la province a estimées nécessaires pour le développement. En dehors de ces options-là, vous ne pourriez pas bénéficier de la bourse de la province. Donc la province finance vos études pour que vous puissiez étudier dans un secteur clé, bien précis, pour que à la fin de vos études, vous puissiez être utile à la province. De manière générale, c'est dans tout ce qui est agro-business, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est développement de mines, tout ce qui est génie civil, tout ce qui est technique.
Actualité internationale.
Le Parlement ghanéen est plongé dans une impasse politique à moins de 2 mois des élections générales du pays. Mardi, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux jusqu'à nouvel ordre à la suite d'un différend juridique concernant la décision du président du Parlement de déclarer vacants 4 sièges parlementaires.
L'invité.
Nous recevons Fenelon Kiangaluka, gérant de la Société des techniques spéciales STS en sigle. Cette société spécialisée dans la fourniture de l'électricité accepte d'accompagner la province du Maniema dans la réhabilitation de ses centrales hydroélectriques. Annonce faite dans une interview à Radio Kapi à l'issue d'une visite des centrales de Rutshuru-Kuru et d'Ambwe. Fenelon Kiangaluka s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Monsieur Fenelon Kiangaluka, bonjour.
Bonjour madame.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre société de techniques spéciales qui est abrégée par STS?
STS, Société de techniques spéciales, c'est une société qui est créée depuis 1989. Au départ, elle était intéressée dans les installations électriques et continue toujours à le faire. La plupart des immeubles à Kinshasa, les installations électriques, c'est STS. Memling et autres, beaucoup d'ambassades, c'est STS. Et puis après, la libéralisation de la société de l'électricité. La société s'est orientée dans la production et puis la distribution de l'électricité dans certaines villes. Nous sommes à Tsikapa, nous alimentons la ville de Tsikapa en électricité après avoir réhabilité la centrale de Lungudi. À Bene Butembo, nous avons construit sur fonds propres deux centrales, la centrale d'Ivuga de 2.8 MW, presque 3 MW, et puis on vient de terminer la construction d'une centrale de 12 MW. Donc à Bene Butembo, on est presque à 15 MW et nous électrifions les villes de Beni et Butembo en électricité. C'est ce qui fait que ça permet à la ville de Butembo de Beni d'avoir l'électricité en permanence 24/24 et permettre l'éclosion de beaucoup d'entreprises à Beni et Butembo.
Alors, c'est la même chose que vous venez faire au Maniema. Qu'est-ce qui vous amène au Maniema alors?
D'abord, nous venons au Maniema parce que nous avons été invités par son excellence, monsieur le gouverneur du Maniema, qui a eu l'idée géniale de mettre en place une conférence qui devait réfléchir sur l'électricité, les mines et les infrastructures. Et nous pensons que ce sont les bases sur lesquelles il faut monter un développement d'une province. Et c'est à ce titre-là que nous sommes venus. On a été invités pour partager l'expérience que nous avons fait à Tsikapa et à Beni Butembo. Et nous pensons que il vit juste de mettre en place cette conférence. Et nous avons dit que voilà ce que nous avons fait. Nous avons réhabilité les infrastructures à Tsikapa. C'est des vieilles infrastructures qui datait des centrales qui dataient de mise en service en 1947. Et nous pouvons construire de nouvelles infrastructures. Nous l'avons fait à Beni Butembo. Deux centrales construites sur fonds propres, 2.8 et 12 MW. Et en prévision, on est occupé à voir comment construire une troisième centrale de 7 MW.
Mais la province du Maniema a aussi quelques centrales hydroélectriques. Est-ce que vous avez pensé un peu visiter et voir dans quel état se trouvent ces centrales?
Nous avons estimé qu'en marge de cette conférence, essayer de visiter quelques centrales hydroélectriques. Et là, nous remercions les autorités de Tsakima qui nous ont permis de visiter leurs centrales. On a visité la centrale d'Ambwe, on a visité la centrale de Rutshuru-Kuru. Et puis nous pensons qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire si on arrive à avoir un accord. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est que dans un premier temps, réhabiliter l'existant, parce que nous, on a été en mesure de le faire à Tsikapa, réhabiliter l'existant. Et surtout par rapport à la demande de la ville de Kindu, parce que moi je rappelle que moi je suis d'ici. La dernière fois que j'étais à Kindu il y a 40 ans, je ne reconnais plus ma ville de 40 ans. Elle a beaucoup progressé. Je pense qu'elle mérite d'avoir l'électricité fiable. L'électricité fiable, c'est l'hydroélectricité. Et que donc, si les choses se passent bien, nous pouvons faire, dans un premier temps, réhabiliter l'existant et puis construire une centrale pour garantir l'électrification non seulement de la ville de Kindu, mais aussi assurer l'électricité pour la société Sakima, ça va permettre à Sakima de renaître.
Alors, dans cet état où vous avez trouvé les centrales hydroélectriques du Maniema. Est-ce que l'État est encore prometteur?
Bon, je peux vous dire que c'est déjà Amboué, on a été Amboué hier. Ce n'est plus fonctionnel depuis plus de 20 ans. C'est dans un état un peu compliqué. Et Rutshuru-Rukuru fonctionne encore. Mais dans tous les cas, nous avons vu pire. Nous avons vu pire à Tchikapa. Ce qu'on a eu à Tchikapa, c'est plus que ce qu'on avait ailleurs. Donc, et puis, au-delà de ça, c'est notre spécialité. Et nous pensons que si tout se passe bien, en tout cas, ce qui nous concerne, nous sommes en mesure d'apporter les financements et de réhabiliter ces centrales. Ce n'est pas la mer à boire.
Monsieur Fenol Kiangaluka, je vous remercie.
Je vous remercie, madame.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga. 19h20 à Kinkungwa, dans la province du Maniema. Voilà qui met fin à ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda, sous la supervision éditoriale de Pele Kipilamondo. Merci à Debs Vita, qui était à la mise en onde. Merci également à vous qui nous avez suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.